Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Ma mère travaillait dans le milieu médical. Elle avait peur de s'approcher de moi, elle voulait plus m'embrasser, ni me toucher, ni quoi que ce soit. Elle m'offrait un verre d'eau, j'avais même pas bu une gorgée, qu'elle m'enlevait le verre pour aller le stériliser. Depuis ce moment-là, j'ai jamais plus rien pu toucher, qu'elle puisse toucher elle derrière, c'était terminé.
Bienvenue dans Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Dans l'imaginaire collectif, le virus du sida, qu'on en soit simplement porteur ou bien qu'on soit atteint de la maladie, ça ne concerne que les autres. Les exclus, les marginaux, les tox, jamais les jeunes femmes bien élevées de la classe moyenne suisse. Sylvie, elle a pourtant appris il y a 20 ans qu'elle était séropositive, c'est-à-dire porteuse du virus. Depuis, elle a dû apprendre à vivre avec la méfiance des uns, le mépris des autres, et l'espoir de faire changer de regard sur une pathologie que tout le monde croit connaître.
C'était au mois de novembre 88. J'avais 19 ans. J'étais enceinte. Et mon médecin m'a proposé de faire un dépistage. À l'époque, j'y entendais pas vraiment quelque chose à ce mot-là, et j'ai dit oui, et... Quelques jours après, il m'a contacté à mon travail pour que je vienne d'urgence. Et il m'a annoncé, avec un très très joli sourire, que j'étais séropositive. Et je savais absolument pas du tout ce que ça voulait dire, mais j'étais complètement effondrée. Mes oreilles sifflaient, j'avais l'impression de perdre connaissance, de plus rien comprendre. Puis finalement, j'attendais peut-être des explications de ce médecin, et j'en ai pas eu. Il m'a simplement dit qu'il fallait prendre un nouveau rendez-vous pour un avortement. Voilà.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu à ce moment-là ?
Rien. J'étais plus capable à ce moment-là ni d'entendre, ni de parler, ni... Je crois que le monde, il s'était écroulé sur moi. Je faisais l'amalgame entre... la séropositivité et le sida. Pour moi, il n'y avait pas de différence. Et j'avais des images flash dans ma tête de ce que j'avais pu voir quelques années plus tôt dans les journaux. Enfin, les premières pages de gens qui étaient atteints du sida. Donc, 2 ans plus tôt, on va dire, quelque chose comme ça. J'ai encore le souvenir d'être à l'école avec mes copines... à discuter, et on avait notre magazine, et on se disait, mon Dieu, ces gens, comme ils sont défigurés par cette maladie. Finalement, on n'abordera pas le sujet, parce que ça ne nous concerne pas. On n'est ni toxicomane, ni homosexuel, donc voilà. On se demande même pourquoi ils nous montrent des choses comme ça, mais rien de plus. Donc à ce moment-là, je revois ces images dans les magazines. Et pire encore, je me projette, je me visualise vraiment avec des taches partout sur moi et dans un état vraiment de détérioration énorme. Voilà, j'ai 18 ans et je suis foutue, je suis morte.
Et lui, il prend pas la peine de dissocier en fait
non.
L'un de l'autre, le
non.
Virus de la
maladie. À aucun moment. Il se lève... Et il me reconduit à la porte. Je vous laisse voir avec ma secrétaire pour reprendre un rendez-vous. Et je ne lui en veux pas, je ne comprends pas, c'est tout. Après, je pense que c'est une erreur, je pense que... C'est pas vrai, je rêve. J'arrive à la maison et j'ai ma belle-mère qui est là. Et elle voit que je pleure, mais elle ne me dit rien. Je trouve... son comportement tout à fait bizarre. Je lui demande où est son fils. Elle me dit il est rentré du travail parce qu'il n'est pas bien. Et puis là, je me dis, mais c'est terrible, il n'y a personne qui est là pour m'aider. En fait, j'avais l'impression que si je rentrais à la maison, tout allait se calmer, tout allait retomber. Et non, je suis encore dans cet tambour-là qui me fait tourner. C'est horrible, j'ai une impression de pesanteur sur moi, sur ma tête, sur mon dos. Je suis écrasée par l'ambiance qui règne à la maison. Et là, mon compagnon arrive. Il me dit, alors, c'est pourquoi qui t'a appelé le médecin? Et je lui dis tout de suite, j'ai le sida. Et il me regarde et il me dit, pardon, pardon. Et il repart dans sa chambre. Donc je lui ai crié qu'il fallait qu'il fasse un test. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, il n'a peut-être pas besoin de faire de test. Et je me lève. Je vais à sa chambre et puis il s'était pendu à un radiateur. Il avait tapé une lettre à la machine. La première chose que j'ai fait, c'est de regarder la lettre. Pas lui. Je l'ai vu, mais j'ai regardé la lettre. J'ai arraché la lettre de la machine à écrire. Et je me suis avancée vers lui. En fait, il respirait encore. Il avait raté sa pendaison. J'en rigole maintenant, sur le moment, évidemment, que j'en rigolais pas. Il m'expliquait sur la lettre qu'il s'excusait de m'avoir mise en danger, qu'il avait eu peur de me perdre s'il m'avouait qu'il était atteint de ce virus. Ensuite, les jours ont passé et puis j'avais une boule de colère qui enflait et je me demandais à quel moment elle allait exploser. À qui je pourrais parler de ça? À personne, c'était absolument pas du tout envisageable. Déjà pour mes parents, qui ont un esprit très très fermé. Ma mère, elle a eu 3 enfants, mais très certainement par l'opération du Saint-Esprit. Hein. On ne parle pas de sexe à la maison, on ne fait pas de sexe, ça n'existe pas. Donc, comment parler de ça à mes parents? Une maladie honteuse. Donc, la première personne à qui je l'ai dite après mon compagnon, hein, sa mère, ça a été mon frère. Il n'a pas vraiment eu de réaction. Il a pris le téléphone et il a appelé notre médecin de famille. J'y suis allée tout de suite, donc mon frère lui a dit immédiatement ce que je lui avais dit au téléphone. Et c'est lui qui m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Mais il m'a dit, je t'explique juste comme ça, parce que moi je ne suis pas spécialisée dans cette pathologie, donc je te dis ce que j'en sais. Et il m'a dit, ta mère est au courant? Je dis, oh là là, mon Dieu, non. Et il m'a dit, est-ce que tu aimerais que je lui dise? Et j'ai dit oui. J'étais vraiment trop lâche pour affronter ma mère. Donc il a informé ma maman. Je l'ai eu au téléphone, hein. Directement après, le médecin me l'a passé. Je pense que j'ai entendu les pires horreurs de ma vie. Elle s'est fait son histoire, elle s'est fait son film en une fraction de seconde. Ouais, j'étais la dernière des prostituées qui puisse exister, quoi. La plus sale, la plus immonde, la plus abjecte. En l'espace de 3 minutes, j'ai tout entendu. Et le médecin m'a pris le téléphone et puis a demandé à ma mère de se calmer un peu. Parce que je pense que je devais être blanche comme un linge. Et enfin, il entendait parce qu'elle criait tellement que... Donc il lui a parlé un moment, et puis après, bon, bah, ça a été la peur de rentrer à la maison. Parce que là, c'était par téléphone, donc je ne l'avais pas en face de moi. Elle ne pouvait pas me frapper, elle ne pouvait rien me faire par téléphone. Mais aïe, 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 rentrer à la maison, qu'est-ce que j'allais subir? Je me demandais. Ben, pas de coup. J'ai pas eu de coup pour une fois. Ben non, parce que j'aurais pu la contaminer très certainement.
Donc elle avait peur de s'approcher de vous?
Oh oui. Ma mère travaillait dans le milieu médical. Oui, elle avait peur de s'approcher de moi. Elle ne voulait plus m'embrasser, ni me toucher, ni quoi que ce soit. Elle m'offrait un verre d'eau. Enfin, c'est même pas elle, c'est mon père qui m'offrait un verre d'eau. J'avais même pas bu une gorgée qu'elle m'enlevait le verre pour aller le stériliser. Voilà, ça a été comme ça avec elle pendant... même peut-être encore maintenant. Depuis ce moment-là, j'ai jamais plus rien pu toucher, qu'elle puisse toucher elle derrière, mettre à sa bouche. C'était terminé. Et ça a été aussi terminé avec mon frère. Notre relation tellement fusionnelle, ça aussi était terminé.
Et votre père ?
Fallait lui cacher à mon père. Mon père, il était dans l'armée. Et oh mon Dieu, si ça venait aux oreilles des chefs, des commandants, des je ne sais qui, mon Dieu. Donc ma mère voulait absolument pas que mon père le sache. Puis finalement, un jour, je pense qu'elle a décidé de lui dire et il m'a pris par la main et s'est mis à pleurer. Il m'a rien dit, il s'est mis à pleurer.
Est-ce qu'à un moment, vous leur avez dit comment vous vous étiez retrouvée dans cette situation ?
Oui, bien sûr que je leur ai dit, mais ils adoraient mon compagnon. C'était absolument pas possible que ça vienne de lui. Donc elle a demandé à mon compagnon de faire un dépistage, mais en disant, de toute façon, si il est comme toi, ça sera de ta faute. J'ai ouvert cette fameuse lettre de l'hôpital qu'il était allé chercher. Quand j'ai ouvert, ma mère était à côté et voilà, encore une fois, elle m'a insulté, moi. Alors, je l'ai laissé dire et on est sortis à l'extérieur, mon compagnon et moi, et je lui ai cassé la gueule. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je crois qu'il a ouvert sa bouche pour dire une stupidité et j'ai pas pu accepter. Pour moi, je ne pouvais pas lui pardonner. Je ne voyais plus rien, c'était juste qu'il m'avait tué ma vie. Combien de temps il me reste à vivre ? 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ? Dans combien de temps mon corps va se dégrader ? Déjà que je sentais que je tombais malade. Combien de temps ça prendrait ? J'avais peur chaque jour, j'avais peur de me réveiller avec une cloque sur le nez ou... C'était horrible. Je ne pouvais pas m'en empêcher.
C'est un peu anecdotique, mais est-ce que vous avez pu savoir comment lui s'était retrouvé séropositif ?
Des vacances en Italie avec des amis, ils étaient allés voir des prostituées. Ils pensent que c'est à ce moment-là.
Donc à partir du moment où vous apprenez que vous avez contracté ce virus, est-ce que vous avortez déjà ?
Oui, j'avorte parce que je me pose pas de questions en fait. Je suis pas dans un état d'esprit à me dire je vais vivre une grossesse et je vais pouvoir élever cet enfant. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis juste en train de mourir.
Est-ce qu'on vous a proposé des traitements à l'époque ?
Rien, non. On me faisait des prises de sang, et voilà, finalement, c'était tout ce qu'il y avait.
Est-ce que c'est resté un secret pendant plusieurs années pour vos collègues, pour votre entourage ?
Oui. Je voyais bien ce que ça avait fait autour de moi avec ma famille, la distance que ça avait mis. Avec ma sœur qui, elle, allait plutôt le hurler partout comme si c'était... Ouais, j'ai gagné au loto, j'ai une sœur qui est malade. Puis un frère qui me fuyait, et puis des parents, une mère que je dégoûtais, et puis un père qui, en fait, n'osait rien dire, qui était au milieu de tout ça, qui en souffrait, mais qui n'osait rien dire. Je me disais, tant que ça ne se voit pas sur moi, je ne dirai rien à personne.
Donc vous êtes restée comme ça pendant combien de temps, sans traitement et avec ce secret ?
Jusqu'en 1990, où je l'ai dit à une autre personne. C'était un ami de mon compagnon. Et il a été très, très bienveillant avec moi. Très, très bienveillant. Il a été gentil. Il m'a dit que c'était terrible ce qui m'arrivait, qu'il serait toujours là pour moi, qu'il garderait le secret, bien évidemment. Voilà, c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Et puis, finalement, on s'est assez vite mis en couple. Et il a voulu avoir un enfant et moi, je ne voulais pas. J'ai dit, mon Dieu, non. Et il me disait, mais tu sais, moi, ça ne change rien dans ma vie. Je dis, mais tu te rends compte, tu t'imagines si je te donne ma maladie Et il me disait, pour moi, ça m'est égal. Je t'aime comme t'es. Et, voilà, on a pris le risque de faire un enfant. Je suis tombée enceinte. En fait, ça a été une grossesse qui a été terrible. Parce que j'avais honte. J'allais à mes rendez-vous, j'étais absolument angoissée de voir les sages-femmes, de voir le personnel médical qui me regardait avec des yeux énormes, qui me jugeait. J'entendais des choses absolument horribles.
Parce qu'une personne séropositive ne devrait pas avoir d'enfant.
Voilà. Comment j'avais pu faire ça? Je mettais la vie en danger des autres. Puis je me rendais pas compte. Alors ils n'avaient pas tout à fait tort, hein, je me rendais pas compte. Moi, ma seule envie, c'était d'avoir un enfant. Et puis je crois que je croyais pas encore. J'arrivais pas à admettre que j'étais malade.
Donc vous avez donné naissance à ce bébé,
mm-hmm.
qui était malade également ou pas?
Oui. Donc on sait pas ça tout de suite. Hein.
Quand est-ce qu'on le sait?
Au bout d'un mois. Alors, dans la première prise de sang, il y a de toute façon des traces, mais qui peuvent disparaître. Donc, pendant un mois, on espère, on espère. Au bout d'un mois, j'ai eu le diagnostic que ma fille était HIV positive, mais que par bonheur, elle avait pris beaucoup de mes anticorps, donc elle était relativement en bonne santé.
Vous, à quel moment est-ce que vous commencez à ressentir des symptômes de la maladie?
Je ne peux pas parler que j'ai eu des symptômes de la maladie, parce que c'est un petit peu des maladies opportunistes hein, qui arrivent. Donc c'est des grippes monstrueuses, c'est des sinusites où vous finissez pendant 6 semaines hospitalisé avec des cocktails de perfusion inimaginables pour une sinusite. Quoi, parce qu'en fait, on s'en remet que difficilement. On s'aperçoit à ce moment-là qu'on est dangereux pour personne, que finalement c'est les gens autour de nous qui sont dangereux pour nous. Parce que... Ah, t'as le rhume, mon Dieu. Oui, ben c'est que le rhume. Pour toi, c'est que le rhume, mais mon Dieu, si moi je l'attrape, je vais être mal pendant... Ça, les gens, ils peuvent pas le savoir déjà en ignorant mon état, mais moi je le sais, je sais. Donc j'essaye aussi de fuir un petit peu les gens qui sont malades. Donc après, les premières choses que j'ai eues de vraiment sérieux, ça a été méningite, des onades, où j'ai été hospitalisée longtemps, où je suis tombée dans le coma, où... Oui, beaucoup de choses comme ça.
Et est-ce que pendant ces années-là, vous adaptiez votre comportement aussi de peur de peut-être contaminer les autres? Est-ce que vous aviez conscience de comment est-ce qu'on transmettait et comment est-ce qu'on ne transmettait pas, contrairement à ce que certains pouvaient penser, la maladie?
Non. J'étais fleuriste. J'ai pépiné mes roses jusqu'à la dernière épine. J'avais tellement peur de me piquer et que quelqu'un se pique derrière moi, mais bon. J'ai su bien après que le virus restait actif une seconde à l'air extérieur. Personne ne risquait quoi que ce soit. Mais bon, je faisais attention vraiment à tout. Et je faisais même attention à ce que personne derrière une canette puisse boire après moi. J'anticipais tout, en fait.
À quel moment est-ce qu'on vous a proposé un traitement ou à quel moment est-ce que votre vie et votre quotidien a commencé à changer?
Peut-être en 96, je pense.
De quoi vous vous souvenez au sujet de ce traitement?
Des douleurs terribles abdominales, hein, des maux de tête épouvantables, des nausées, des cauchemars. Mais des cauchemars, pire que ça, j'aurais pu faire du cinéma gore. C'était une trithérapie, mais je ne saurais plus les noms parce que j'ai changé tellement souvent. Je crois que je mangeais que des médicaments toute la journée.
Donc, les effets secondaires ont duré longtemps, durent jusqu'à aujourd'hui
Oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, 2 fois par an, on a une prise de sang complète pour voir notre immunité, où ils calculent la virémie, tout ce qu'il faut, les CD4 pour voir les proportions. On change de médicaments s'il y a besoin de changer. Moi, j'ai dû changer parce que oui, j'avais beaucoup d'effets secondaires et puis je faisais des résistances à tout. C'était plus efficace. Donc, il fallait changer, puis recommencer, essayer, avoir mal, souffrir. Toujours un peu la même chose, hein, avec la vie à côté qui aide pas, qui est dure. On est faible, on est fatigué, il faut se lever, il faut travailler, il faut essayer de pas se plaindre. Plus on se plaint, plus les gens se posent des questions. Comment, à ton âge, tu peux déjà être fatigué? Toutes les questions que peuvent se poser les gens. Hein. Pourquoi tu es toujours à l'hôpital avec ta fille? Pourquoi si? Pourquoi elle est en chaise roulante? Pourquoi elle marche plus?
Donc pendant tout ce temps, ça reste un secret.
Mmh.
Ça l'est encore?
Non. Plus depuis un an. En fait, il y a 2 ans en arrière, je suis tombée malade et... J'ai eu une encéphalite auto-immune, donc j'étais complètement déformée, j'arrivais plus à parler, c'est un petit peu comme un AVC. En fait, les médecins, ils trouvaient pas ce que j'avais, mais j'avais surtout l'impression qu'ils faisaient un petit peu n'importe quoi. Je les voyais, ils passaient d'un lit à l'autre, et en fait, ils se trompaient de patient, chaque fois. Mais je pense qu'ils prenaient pas mon cas au sérieux. Ils ont jamais pris en compte moi, HIV, ils ont jamais... Tout ce que je leur disais... J'avais l'impression qu'ils ne m'écoutaient pas. J'étais un peu paniquée parce que je me disais, ben voilà ma cocotte, c'est l'heure maintenant. T'as cru que ça irait vite et puis maintenant que tu crois que ça va durer encore, ben non, tu vas partir. Et puis je me suis dit non, je ne veux pas partir. Je suis restée dans ma bulle pendant des années. Finalement, je ne vais pas si mal que ça. Alors oui, j'ai mal, oui, j'ai des effets secondaires, oui, si, ça. Mais il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ben, il faut que j'utilise tout ça. Il faut que je le partage. Donc, j'ai décidé de sortir de ma bulle et puis d'assumer ma maladie. En fait, il n'y a rien qu'à changer. Depuis tant d'années, ça fait bientôt 30 ans que je suis malade. Hein. Est-ce qu'on a trop banalisé les choses, hein? On a moins parlé du sida, on a moins parlé de séropositivité pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les médicaments qui sont arrivés. Donc les gens se sont dit, youpi, on est sauvés. Ouais, quand on a la chance de bien supporter ces médicaments, de bien les tolérer, on peut avoir une vie à peu près correcte. Mais faut pas oublier qu'il y a des gens qui supportent aucun médicament, qui sont très très malades. Il y a encore des gens qui meurent de cette maladie. Alors maintenant, on sait qu'avec un traitement aussi, ben, quelqu'un comme moi, je peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans le mettre en danger, aucunement. Du moment où je suis traitée, où je suis avirémique, ça veut dire que je suis indétectable. Donc je peux avoir une vie sexuelle normale. Aujourd'hui, je suis revenue au premier médicament parce que les médicaments sont plus efficaces sur moi. Donc, je suis revenue au médicament qui est le plus nocif pour l'organisme. Mais il n'y a pas de choix, il n'y a que ça. Donc, quelqu'un qui est HIV positif depuis 2 ans ou depuis 30 ans, il vit la même chose. Hein. J'ai une fille, moi, qui n'a pas eu la joie d'avoir des copines à l'école parce qu'elle était séropositive. J'ai toujours eu la décence d'informer les profs de sa maladie. J'avais peur du sang, j'avais peur qu'elle puisse se blesser. Ouais, tu viens, on fait frère de sang ou des trucs comme ça. Hein. Je me suis toujours dit, mon Dieu, qu'il y ait un adulte au moins qui sache. Mais finalement, les profs, ben, ils en parlaient aux parents. Et puis, ma fille rentrait de l'école avec les yeux au beurre noir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je me suis fait frapper. Pourquoi? Parce que j'ai le sida. Alors que ma fille, elle savait même pas ce que c'était le sida. Elle pensait qu'on lui injectait des petits soldats dans son corps tous les mois parce qu'elle était malade. Mais il n'y avait pas de nom sur sa maladie. C'était des soldats qui l'aidaient à combattre, c'est tout. Elle a jamais eu d'amis. Juste des coups à l'école. Donc j'espère qu'aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Que les mentalités ne sont plus pareilles qu'avant.
Vous avez une conversation avec elle au sujet du sida?
Oh oui, depuis qu'elle est toute petite, hein, depuis qu'elle sait parler, on en a toujours discuté, bien sûr avec des mots qu'elle pouvait entendre à l'époque. Et puis, elle a grandi avec ça et on n'a jamais vraiment dû se mettre autour d'une table puis dire, ben voilà, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Non, non. Elle a eu tellement de traitements, elle a été tellement hospitalisée que elle savait les médicaments depuis sa naissance qu'elle les prend.
Mais est-ce qu'elle avait conscience du tabou ?
Oui. J'aurais aimé qu'elle ne soit pas comme moi, qu'elle ne se cache pas. Puis moi, j'ai pensé qu'à la rendre forte. Je me disais qu'il fallait qu'elle soit indestructible. Il fallait vraiment que rien ne puisse l'abattre. Donc j'en ai fait un petit soldat. Hein. Mais cette difficulté avec la maladie, qui est impossible pour elle, du reste, on s'aime. Moi, je pense qu'on a, toutes les deux, on a respiré en même temps toute notre vie. Quand une était malade, l'autre tombait malade, systématiquement. Les médecins disaient, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que vous vous accrochez l'une à l'autre sans arrêt. C'était ça, c'était vraiment... Puis maintenant, bah, c'est différent, parce qu'elle aimerait être maman. Puis pour être maman, bah, il faut avoir quelqu'un dans sa vie. Puis pour avoir quelqu'un dans sa vie, il faut quelqu'un qui vous accepte. Et puis ça, c'est pas facile. Vous êtes une personne malade, de toute façon, quoi qu'il en soit. Les gens, ils restent encore avec l'ancienne image, l'image du film avec Tom Hanks... un homosexuel qui meurt dans des conditions assez atroces, donc, puis qui fait un procès à son employeur. Mais voilà, je pense que les gens, ils restent là-dessus. Donc, tant ils ne sont pas concernés, ils ne connaissent personne qui a le sida. Donc, ils ne sont pas concernés. Et pour eux, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est les homosexuels, c'est les toxicos, alors que... Il y a des gens qui me disent, mais attends, ils sortent de quelle grotte, ceux-là, pour ne pas savoir... Ben, de la même que la plupart des gens. Je peux prendre 10 personnes dans la rue. Qui a entendu parler de la PrEP, de la PEP ? Qui sait que depuis 10 ans, on risque plus rien en ayant un rapport sexuel avec une personne qui a HIV positive ? Qui sait ça ?
Aujourd'hui, enfin maintenant que vous ne vous en cachez plus, est-ce qu'il y a eu des réactions qui vous ont vraiment heurté ou au contraire des réactions qui vous ont, entre guillemets, fait plaisir ?
Alors, des réactions qui m'ont fait plaisir, non, aucune. Des réactions qui me heurtent, c'est toujours les gens qui compatissent et qui disent « mais rien ne changera entre nous » et finalement, vous ne les revoyez plus jamais. Des amis de 30 ans, hein. Ça heurte, oui. Parce que finalement, rien n'a changé en 30 ans, entre eux et moi, mis à part que je leur ai dit la vérité.
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui se trouvent être atteints du VIH et puis n'osent pas en parler, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez leur dire ?
Qu'il faut vraiment en parler. C'est tellement facile de le dire maintenant que j'arrive à en parler. Quand on est dans une relation, je pense que c'est plus difficile d'en parler après qu'avant. Même si on sait qu'on risque rien en ayant des relations sexuelles non protégées, puis si la personne elle est intelligente, ben elle va dire, ben écoute, j'aimerais quand même en savoir un peu plus, je vais t'accompagner chez le médecin, on va discuter. On peut faire un bout de chemin avec une personne comme ça. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte parce que c'est pas une maladie honteuse. Ça a été... tellement stigmatisé, ça a été tellement une horreur dans les années 80 que c'est resté. Puis, maman Dieu, on a évolué, la médecine, elle a évolué, puis on peut vivre presque normalement. Je dis bien presque normalement, parce qu'il ne faut pas oublier que les traitements sont lourds. J'insiste, mais pour ceux qui sont nouvellement contaminés, parlez. Il faut parler parce que tout ce qu'on dit pas, ça reste et puis ça fait mal et puis on se bouffe. Et puis il y a plein d'endroits où on peut se rendre pour discuter avec des gens qui ont la même vie que vous, finalement, les mêmes problèmes que vous. Et moi, je suis restée 29 ans dans mon coin toute seule à gamberger ma maladie. Si j'avais su qu'il existait des associations, si on m'avait dirigée, quel gain de temps et d'énergie, et qu'est-ce que j'aurais pu vivre des moments bien plus joyeux que ce que j'ai vécu toute seule. Hein. D'en parler avec des autres, c'est tellement mieux.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samakiyablou. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours!